Le désespoir et la présomption. Et Blaise Pascal donc a des belles réflexions justement où il montre combien on oscille de l'un à l'autre. Je vous cite la misère persuade le désespoir, l'orgueil persuade la présomption. L'incarnation montre à l'homme la grandeur de sa misère par la grandeur du remède qu'il a fallu. Ou encore Blaise Pascal, toujours. La connaissance de Dieu sans celle de sa misère fait l'orgueil. La connaissance de sa misère sans celle de Dieu fait le désespoir. La connaissance de Jésus-Christ fait le milieu parce que nous y trouverons et Dieu et notre misère. Quelque part, du coup, j'aime bien ces citations de Pascal parce qu'il voit que finalement, c'est en Jésus qu'on trouve notre espérance. Ou voilà. On n'est pas humilié par la présence de Jésus et en même temps, il vient vraiment donner sa vie pour nous sauver. Voilà, bon, je souffre des petites choses, voilà. Alors, mais habituellement, donc, ça commence davantage par la présomption. On part tout feu, tout flamme, on pense qu'on va y arriver tout seul comme des grands sans avoir besoin du bon Dieu. Puis au bout d'un moment, on se casse la figure ou alors il nous arrive une tuile sur la figure. Soit au niveau de la santé, soit au niveau du métier, soit au niveau de la famille. Soit... Alors à ce moment-là, on passe du haut où on avait l'impression d'être invincible, où on passe au 36e dessous et plutôt au désespoir. Donc on passe assez facilement de l'un à l'autre. Mais je vais commencer par parler de la présomption, parce que souvent on commence plutôt par la présomption. Et puis avec la vie, quelquefois, elle nous enlève un peu de présomption, la vie, parce qu'on voit que ça ne marche pas si bien qu'on imaginerait. On pensait qu'on serait 10 fois meilleur que les autres, que nos parents et tout ça. Et puis finalement, on voit que c'est... Vous vous rappelez du prophète Élie, hein, dans le désert? Alors, ce n'est pas une mauviette, Élie. Hein, et 450 prophètes de Baal, tout ça... Et puis après, la reine Jézabel qui veut l'exterminer. Alors à ce moment-là, il s'enfuit et puis il se couche sous un buisson. Il dit « Oh, je ne vaux pas mieux que mes pères, prends ma vie, etc. » Voilà. Et donc il est aussi... Alors qu'avant, c'était vraiment le... Voilà. Mais nous, c'est un peu la même chose. Donc, d'abord la présomption. Alors, il y a plusieurs sortes de présomptions. Je suis encore que dans l'introduction. Là, je ne sais pas si on va y arriver, mais... Alors, le catéchisme et puis saint Thomas d'Aquin dit qu'il y a deux sortes de présomptions. Il y a une présomption où on pense être le meilleur. Voilà, et finalement, on n'a pas besoin de Dieu. Grosso modo, c'est un peu ça. Et la deuxième manière, le deuxième visage de la présomption, c'est plutôt qu'on pense aller au ciel sans avoir besoin de faire d'efforts. Et puis, de toute façon, Dieu nous pardonnera tout. Donc, ce n'est pas la peine de se casser la tête. Donc ça, vous voyez, c'est deux types de présomptions différents. Il y en a un, c'est plus on s'illusionne sur notre toute puissance, et puis l'autre, on a une mauvaise idée de la miséricorde de Dieu, parce que Dieu n'est pas un imbécile non plus. Hein. Donc voilà. Et alors, mais dans le premier type de présomption, alors je vais finir par vous semer dans tous mes 1, 2, 3. J'en ai retenu 3. Une forme de présomption avec la science et la technique. Alors les 3 premiers, c'est plutôt emprunté, grosso modo, à l'encyclique de Benoît XVI sur l'espérance, hein, une belle encyclique. Il y a des passages plus ou moins faciles, mais très intéressantes, passionnantes. Et alors donc, la foi dans le progrès, on pourrait dire, une première... je reviendrai plus dans le détail après. Voilà, et... Cette foi dans le progrès est un peu émoussée chez beaucoup de gens parce qu'on voit que le progrès, voilà, c'est pas... Après, il y a une foi dans les structures, une foi dans l'organisation, une foi dans la politique. Alors, Marx, il pensait résoudre tout et que finalement, tout marcherait bien. Bon, on voit bien que ça n'a pas marché comme il voulait. Donc, voilà. Mais ça se vit aussi dans nos familles et nos communautés où on pense tout organiser bien et puis ben, ça ne suffit pas pour que ça... Voilà, et puis une foi une forme de foi dans la richesse, etc., dans le matérialisme, le bien-être. Voilà, on pense que si on a tout, on serait heureux. Mais bon. Et du coup, on n'a pas besoin de Dieu, finalement, on n'a plus besoin de l'espérance, puisqu'on a tout ce qu'il nous faut. Voilà. Et après, il y a d'autres formes de présomption, il y a une manière... Alors, je regrouperai tout sous le thème de voyance, mais la manière d'avoir recours quelquefois à la voyance, à la magie, à toutes les pratiques occultes et tout ça pour essayer d'y arriver. Alors, c'est plutôt, quand on voit que ça ne va pas si bien que ça, alors plutôt que se tourner vers Dieu, quelquefois on se tourne soit vers la magie et tout ce qui est... Soit on se tourne aussi vers la bouteille ou vers la drogue ou vers... Et puis en tout cas, dans ce cas-là aussi, on n'est pas encore dans le fait de... on fuit un peu la réalité quelque part, mais on n'accueille pas vraiment ce que Dieu nous demande. Voilà. En tout cas, il y a une désillusion quelque part, parfois, qui arrive, et cette désillusion peut être salutaire, alors, surtout quand on est... fier de tous ces succès dans la science, etc. De tout. Alors, je vous lis un petit livre, un petit extrait du prophète Osée, au chapitre 14, les versets 2 à 10, plus ou moins. Et je trouve que ça, quelquefois dans notre vie, la désillusion, ça nous fait du bien. Se casser la figure, ça nous fait du bien, parce que du coup... ça nous oblige à repenser un peu notre vie. Bon, on ne cherche pas à se casser la figure habituellement, mais il arrive des choses dans notre vie qu'on n'a pas choisies, et quelquefois ces choses qui ne sont pas choisies, la providence les permet, parce que ça nous permet de nous souhaiter un peu et nous... Bon, encore une fois, on ne court pas après les épreuves, hein, mais voilà ce qui est dit dans le livre d'Osée. Reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes nos fautes et accepte une belle offrande. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, ils mettaient leur espérance dans les Assyriens plutôt qu'en Dieu. Nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu, car toi seul as compassion de l'orphelin. Alors, il y a tout un passage, je ne vais pas... Mais on voit que, voilà, on se fiait à des tas de choses qui nous donnaient notre sécurité, tout ce qu'a sa figure, et à ce moment-là, on se tourne avec Dieu. Parce que dans ces choses, on n'a pas une relation avec ces choses qui nous donnent la sécurité. Tandis que ce que Dieu attend, c'est d'avoir une relation avec lui. L'espérance, c'est ça, c'est une vertu théologale, ça concerne le lien qu'on a avec Dieu. Et c'est ce qui intéresse Dieu. Voilà, toujours dans l'introduction, on va bientôt arriver à la fin. Alors donc, on est dans la présomption et puis après, la désillusion. Quelquefois, soit on se ressaisit et c'est très bien, on entre dans l'espérance, soit on tombe dans le désespoir. Et là, je retiens dans la ligne du catéchisme, trois aspects du désespoir. Soit penser qu'il n'y a rien après la mort. Du coup, ben, on n'envisage quand même pas les choses de la même manière selon qu'il y a quelque chose ou selon qu'il n'y a rien du tout après la mort. Deuxième aspect du désespoir, c'est quand on pense être tout seul pour affronter ce qu'on a affronté dans notre vie. Ce n'est pas la même chose quand on est tout seul ou quand on peut s'appuyer sur quelqu'un, mais quelqu'un de grand. Et troisième chose, c'est le désespoir par rapport au pardon de Dieu. On a fait des choses qui n'étaient pas bien et on désespère. Parce qu'on ne croit pas qu'on sera pardonné, et puis voilà, on ne croit plus en la miséricorde. Alors ça, c'est trois aspects du désespoir que je développerai. Ça va, ça c'était juste le plan. Maintenant, on entre un peu plus dans... Alors, donc dans les désillusions, dans les présomptions, d'abord celle qui concerne plus la science et la technique, mal comprise, parce qu'en soi, encore une fois, la science et la technique, c'est quelque chose de bon en soi. Hein. Je ne veux pas du tout... voilà, c'est quelque chose de bon, mais il y a une manière de concevoir la science et la technique qui est assez présomptueuse. C'est finalement de penser que la foi en Jésus, C'était pour les anciens, mais aujourd'hui, on a évolué, on n'a plus besoin de ça. Voilà. Et finalement, le règne de l'homme remplace le règne de Dieu. Voilà, c'est très bien, on a réussi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de progrès, on ne peut que s'en réjouir. On ne peut que se réjouir des progrès dans la médecine, quand même, c'est vrai, on ne va pas cracher dans la soupe, hein, c'est bien. Dans les sciences humaines aussi, alors je trouve que notre monde est beau aussi pour ça, parce que, alors quand il y a des week-ends famille, où, je trouve qu'il y a beau, ne serait-ce qu'à un simple niveau familial, conjugal, si vous voulez des aides, il y a quand même plus d'aides aujourd'hui qu'il y en avait il y a 50 ans, pour apprendre à se dire les choses, on a un petit flash publicitaire, ah oui, tant que j'y pense, vous avez vu que la librairie n'est plus là, on a dû tout casser à cause des petites bébêtes dans les poutres, mais elle existe toujours, on a tout déménagé de l'autre côté de la place, donc elle existe encore, et il y a des livres dedans. Par exemple, un livre, j'en avais commandé trop, puis on a oublié de les emmener à la session famille, il faut que j'arrive à les écouler. Je vous dis les choses telles quelles. Non, ils sont très bien, c'est Gottman, ça coûte pas très cher en plus. Mais alors c'est un livre que j'aime bien, où je trouve qu'il donne des pistes très très intéressantes pour la vie conjugale. Voilà, alors n'hésitez pas si vous voulez, voilà. Bon, mais aujourd'hui pour... Alors, si vous dites que c'est Père Éric qui recommande le livre, là ils se douteront déjà. C'est Le secret des couples heureux. Le secret des couples heureux. 7,80 € aux dernières informations à la boutique. Mais peut-être que sur Amazon, vous l'avez moins cher. Mais ça, il ne faut pas que je le dise, vous avez oublié ça. Bon. Voilà. Alors, c'est dans les progrès, tout ça pour dire que dans les progrès, il y a des tas de choses. Vous êtes content d'avoir une voiture qui dégivre plus vite, là, avec la fermeture centralisée des portes, c'est quand même plus rapide. Il y a plein de progrès, on ne va pas dire que c'est mal, quoi. Et voilà. Donc, on est dans une belle époque. Mais en même temps, après, il peut y avoir une forme d'optimisme un peu naïf. Ce n'est pas parce qu'il y a des tas de choses belles qu'on sait forcément s'en servir bien. Ça, c'est une autre... Et pourquoi ? Parce que finalement, on pense qu'en ayant des techniques très bien, on va régler le problème. Mais on oublie un peu le péché derrière. Ce n'est pas parce qu'on a la bonne technique et tout ça que ça va bien se passer, parce qu'on oublie qu'il y a eu le péché originel et puis il y a nos propres péchés qui font que... Ça devrait marcher, mais de fait, ça ne marche pas, parce qu'on est pécheur. Alors, à un autre niveau aussi, on pourrait prendre plusieurs niveaux, mais au niveau de la médecine, il y a 100 ans, on ne se posait pas trop de questions, on ne pouvait pas avoir d'enfant. Aujourd'hui, on nous propose des tas de choses qui sont bonnes ou qui ne sont pas bonnes. On est obligé de se poser des questions, et puis souvent la technique va plus vite que notre réflexion, donc on ne sait pas très bien ce qu'on doit en faire. Donc c'est là que la technique en elle-même est neutre. Enfin, elle est ni bonne, ni, techniquement ça peut être bien, mais ce n'est pas pour autant que moralement c'est quelque chose de bien. La découverte de l'atome et tout ça, c'est fabuleux. Mais en même temps, si on fait la bombe atomique après... Ça veut dire que le progrès en lui-même, moralement, il est neutre, c'est ce qu'on en fait. Après, derrière le progrès, c'est l'homme. Qu'est-ce que l'homme va en faire? Donc, Benoît XVI réfléchit à tout ça dans son encyclique, c'est sur l'espérance. Alors, je peux vous dire quelques petites choses, peut-être. La science peut contribuer beaucoup à l'humanisation du monde et de l'humanité. Cependant, elle peut aussi détruire l'homme et le monde si elle n'est pas orientée par des forces qui se trouvent hors d'elle. Alors, ou autre citation. Si au progrès technique ne correspond pas un progrès dans la formation éthique de l'homme, dans la croissance de l'homme intérieur, alors ce n'est pas un progrès mais une menace pour l'homme et pour le monde. Ou encore, c'est dans les numéros 22 à 25 plus ou moins de l'encyclique sur l'espérance. Nous devons constater qu'un progrès qui se peut additionner n'est possible que dans le domaine matériel. À l'inverse, dans le domaine de la conscience éthique et de la décision morale, il n'y a pas de possibilité équivalente d'additionner, pour la simple raison que la liberté de l'homme est toujours nouvelle et qu'elle doit toujours prendre à nouveau ses décisions. Je trouve que ça, c'est intéressant. On peut avoir des tas de progrès, mais chaque personne, pour ce qui est de la norme morale, doit refaire le chemin de A à Z. Enfin, avec l'aide de l'éducation, bien sûr, au début. Donc, toutes les mamans, le rôle est extrêmement important, justement, pour éduquer. Mais ça, c'est chacun qui doit refaire le chemin. Autant pour la technique, bon, on arrive, on reprend ce que nous ont laissé nos prédécesseurs, et puis on va plus loin. Mais au niveau éthique, c'est pas comme ça que ça passe. Il faut que chacun refasse le chemin pour, alors en cédant des acquis, sans doute, mais voilà. Mais encore au-delà de ça, ce risque de catastrophe, ou pour parler de la bombe atomique, par exemple, pour prendre un exemple facile, en fait, c'est le problème, il est plus loin que ça. Il y a une citation de Georges Bernanos dans une conférence en 1945. Voilà ce qu'il disait. Le grand malheur de cette société moderne, sa malédiction, c'est qu'elle s'organise visiblement pour se passer d'espérance comme d'amour. Elle s'imagine y suppléer par la technique. Elle attend que ses économistes et ses législateurs lui apportent la double formule d'une justice sans amour et d'une sécurité sans espérance. Et je trouve que c'est, au-delà de ça, on pense que tout va se résoudre sans que nous, on ait notre part. Ça se rapproche, sous un certain rapport, vous savez un peu ce que c'est que la gnose. Hein, la gnose, dans les premiers siècles des chrétiens, il y avait cette prétention d'être sauvé par la connaissance. L'Église dit non, on n'est pas sauvé par la connaissance. Bien sûr, si vous connaissez Jésus, ça vous aide. Mais il n'y a pas que la connaissance, il y a aussi la morale, la dimension de la morale, le fait d'agir. Vous pouvez connaître par cœur votre évangile, ce n'est pas ça qui vous sauvera, c'est de vivre selon l'évangile qui vous sauvera. C'est ça qui va vous sauver. Mais ça, c'est, et quelque part, de savoir des tas de choses belles, et c'est pas ça qui va vous sauver, c'est de vivre en conformité avec l'évangile, c'est ça qui va vous sauver. Et derrière cette foi dans le progrès, entre guillemets, on oublie que le plus essentiel, c'est encore ce qui se passe au niveau du cœur, au niveau de la relation avec Dieu et avec les autres. Alors, en plus, si je demande ça à des dames, ça serait peut-être plus risqué, mais à des dames, je pense que c'est moins risqué. Qu'est-ce que vous préférez, d'aller dans un magasin où vous scannez tous vos articles dans votre coin, tout ça, et puis vous payez, toc, ou vous préférez croiser la caissière, à supposer qu'il n'y ait pas la même longueur de queue des deux côtés, hein, mais ça c'est plus l'homme qui parle, sinon. Mais a priori, on préfère rencontrer quelqu'un, je pense, enfin je ne sais pas pour vous, hein, mais non. Mais si c'est la même rapidité d'un côté ou de l'autre, en plus tu as un sourire de l'autre côté, tandis que... mais si... Et je trouve que... Alors j'avais trouvé ça très intéressant. D'ailleurs, pour... Oh là là, ça cause, je vous... D'ailleurs, semble-t-il, pour les halles spirituelles, pour les dames, les inscriptions ne se font pas exactement comme pour les hommes, parce que les dames préfèrent téléphoner. Pas toutes, hein. Ça dépend peut-être de la génération aussi, je ne sais pas. Mais, alors, ça avait été une discussion aussi par rapport au site, là, l'inscription en ligne, etc. Une chose qu'on pouvait observer, je trouve que c'est très intéressant, quand on va aux aéroports, à Buenos Aires, ou, voilà, il y a les machines, on nous invite à aller vers les machines, comme ça, voilà. Mais en même temps, habituellement, il y a une personne à côté des machines. Et ça nous rassure. Personnellement, moi, ça me rassure quand il y a une personne. Je ne sais pas, ça scanne mal, ou mon passeport, il ne passe pas, ou je ne sais pas. Ben voilà, si je suis tout seul avec la machine, je peux taper dessus, mais ça n'arrange pas grand-chose. Ben, je ne taperai pas sur la personne, mais je lui demanderai comment faire. Et puis, on a besoin de ce lien au-delà de. Bon, alors, c'est vrai que. Mais alors, et du coup, le sens du progrès ne va pas forcément dans le sens du lien, en tout cas, avec les autres et avec Dieu. Et alors, Benoît XVI parle de, en voyant si on choisit la science ou l'amour, il ne faut pas les opposer, hein, mais il ne faut pas les opposer, mais en même temps, on peut se demander si quelquefois notre recours à la technique, à la science, n'évacue pas un peu la place de l'amour et de la. Je vous cite encore Benoît XVI. La science contribue beaucoup au bien de l'humanité, sans aucun doute, mais elle n'est pas en mesure de le racheter. L'homme est racheté par l'amour qui rend la vie personnelle et sociale bonne et belle. C'est pourquoi la grande espérance pleine et définitive est garantie par Dieu, par le Dieu qui est amour, qui en Jésus nous a visités et nous a donné la vie, et en lui reviendra à la fin des temps. Ce n'est pas la science qui rachète l'homme, l'homme est racheté par l'amour. Alors il y a des passages assez beaux, c'est le numéro 26 de l'encyclique sur l'espérance, je ne vous le lis pas en entier. Mais bon. Donc ça c'était une première difficulté par rapport à l'espérance, hein, une première forme de présomption, c'est penser qu'avec le progrès finalement on va être sauvé, on n'a plus besoin de Jésus, c'était dans notre âge. Et du coup, de plus espérer le salut. Deuxième domaine de présomption, ça peut être plus au niveau de l'organisation, ça rejoint un peu le précédent, mais un peu différemment. C'est penser qu'en mettant beaucoup de structures, des normes et tout ça, voilà, tout va bien. Alors, et il y a du bon. C'est vrai que quand il arrive une catastrophe, c'est bien de réfléchir et de voir comment on peut éviter à l'avenir qu'elle se renouvelle. Ça. On peut qu'être d'accord. Mais quelquefois, du coup, on accumule tellement de normes, etc., que ça en devient un peu invivable. Et, à vrai dire, en famille, ça peut être la même chose, ou au niveau communautaire. Hein. Alors, après, ça dépend des familles, mais quelquefois, on veut. C'est bien que ça soit un peu organisé, sinon c'est toujours les mêmes qui font la vaisselle ou qui font. Voilà. Là. Mais, et quelquefois, du coup, il y a des petits mots à chaque pas qu'on fait dans la maison. Ne pas oublier de fermer la lunette, ne pas oublier de fermer la porte, ne pas oublier. Alors, quelquefois, ça ne peut pas faire de mal, mais bon, quand il y en a trop, c'est. Et alors. Quelque part, cette organisation, on pense que si on dit les choses, ça rejoint un peu ce qu'on disait avant, mais on pense que ça résoudra le problème, mais encore faut-il que les gens ne soient pas trop distraits, pour que ça marche, et qu'ils aient une bonne volonté aussi, il y a un peu les deux. Quelquefois, c'est juste, on n'y pense pas, bon, ça c'est comme ça, hein. Je pense en communauté, c'est multiplié par rapport, vous multipliez le nombre où vous êtes, et... Donc c'est normal, c'est ça la vie. Mais du coup, c'est oublier aussi, à la fois, je pense, les limites. On oublie les limites des personnes. Et voilà, certains sont distraits, ils sont distraits. Ça ne sert à rien de crier dessus indéfiniment, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Et puis quelquefois, il y a la mauvaise volonté. Et ça, ben, on ne peut pas... quelquefois, on peut essayer d'arranger les choses, mais bon, on ne peut pas le faire à la place des gens. Si les gens ne veulent pas, ils ne veulent pas. Hein. S'ils ne veulent pas faire prouver. Voilà. Donc, changer les structures, on peut imaginer qu'un monde avec tout prévu, ben oui, mais il n'y a pas que les structures qui. Voilà, ça ne suffit pas. Et quelque part, c'est aussi, à ce niveau-là, on pourrait donner trop de place à la raison et qu'à l'amour. Alors, j'ai parlé de l'organisation, on aurait pu parler au niveau politique. Hein, quand un président est élu, je me rappelle, je ne prends pas de nom pour ne pas faire politique, mais voilà, le discours après l'élection, on pensait que c'était le Messie qui allait faire que tout aille bien, mais en fait... On l'attend encore, le Messie. Parce que, bon, on imagine, je pense qu'il avait plein de bonne volonté. Je ne veux pas mettre en doute sa bonne volonté, mais seulement, voilà, il ne suffit pas d'avoir de la bonne volonté pour que ça marche. Sauf si on oublie, parce qu'on oublie qu'il y a le péché, on oublie que, voilà, on est limité, que même si on veut le meilleur des mondes, ben voilà, il y a plein de... On n'est pas tout puissant, on n'est pas Dieu. Hein? Et alors, là aussi... quelquefois, on manque d'espérance parce que, justement, on s'appuie trop unilatéralement sur des structures, sur une organisation. Mais la Révolution française, ils ont voulu mettre la déesse raison à la place du dieu d'amour. Mais ça ne marche pas trop, hein, la déesse raison. Ça veut dire que c'est plus au niveau de la connaissance. On pense que, voilà, encore une fois, on connaît... La connaissance, on peut rester à distance. L'amour, ça crée un lien. Hein, mais la distance, on peut rester sur son mirador. Voilà, et puis, voilà. Mais l'amour, voilà, on rentre dans un lien et c'est toujours plus compromettant, en quelque sorte, de rentrer dans un lien. Et alors, dans ces manières de fausses espérances, voilà, on pense à distance, tout réglé. Et Jésus, il n'a pas fait ça, il est venu... parmi nous, et puis il a donné sa vie. Et ben, ça lui a coûté cher. Hein. Mais voilà, c'est ce que dit Benoît XVI encore. L'homme ne peut jamais être racheté simplement de l'extérieur. Ou dans un autre numéro encore, il dit « Même les structures les meilleures fonctionnent seulement si dans une communauté sont vivantes les convictions capables de motiver les hommes en vue d'une libre adhésion » à l'ordonnancement communautaire. La liberté nécessite une conviction, et une conviction n'existe pas en soi, mais elle doit être toujours de nouveau reconquise de manière communautaire. Voilà. Alors ça, c'est une deuxième manière d'avoir un peu de présomption, c'est le... Pour l'organisation, on pense que tout va être bien organisé. Maintenant, on ne peut que garder une certaine modestie, bien sûr, il faut organiser, bien sûr. Mais en même temps, l'organisation ne fait pas tout. Et troisième aspect de forme de présomption, c'est par rapport à l'argent, à la richesse. On pense que si on est riche, tout ira bien. Ou si... Si on est dans un monde de bien-être, voilà, on n'a plus besoin de Dieu, puisque, voilà. Alors, le pape François a des phrases assez percutantes là-dessus. Parce que, entre l'espérance et la pauvreté, il y a un lien. Comme entre la pauvreté et la joie, c'est le père Marie-Dominique Philippe qui disait que la pauvreté est la gardienne de la joie. Mais on pourrait dire aussi qu'elle est la gardienne de l'espérance. Alors, il ne s'agit pas de la misère, hein, mais je vous cite deux, trois phrases du pape François, une dans la catéchèse du 8 février 2017. « Celui qui s'enferme, le fait de s'enfermer, hein, dans son bien-être, ne connaît pas l'espérance. Il n'espère que dans son bien-être, et cela n'est pas de l'espérance. C'est une sécurité relative. » Alors ça, c'était dans son déplacement en Corée, le 15 août 2014. L'espérance offerte par l'Évangile est l'antidote à l'esprit de désespoir qui semble croître, tel un cancer dans la société qui, extérieurement, est nantie mais qui souvent fait l'expérience de la tristesse intérieure et du vide. Alors, il y a le psaume 48, ou 49, ça dépend de la... 48 dans la numérotation liturgique, je crois. Il y a un refrain qui est un peu raide, hein. Alors, je vous lis le début. « Pourquoi craindre ceux qui s'appuient sur leur fortune et se vantent de leur grande richesse ? Nul ne peut racheter son frère ni payer à Dieu sa rançon. Aussi cher qu'il puisse payer, toute vie doit finir. » L'homme comblé ne dure pas, il ressemble au bétail qu'on abat. C'est un peu raide, hein ? Et un peu plus loin, ne crains pas l'homme qui s'enrichit, qui accroît le luxe de sa maison. Aux enfers, il n'emporte rien, sa gloire ne descend pas avec lui. De son vivant, il s'est béni lui-même. On t'applaudit car tout va bien pour toi, mais il rejoint la lignée de ses ancêtres qui ne verront jamais plus la lumière. L'homme comblé qui n'est pas clairvoyant ressemble au bétail qu'on abat. Alors ça fait réfléchir, hein, ce psaume. C'était hier soir, mardi soir, ce psaume. Voilà. Ou encore une autre citation du pape François. L'espérance n'est pas une vertu pour les gens qui ont l'estomac plein. Voilà pourquoi, depuis toujours, les pauvres sont les premiers porteurs de l'espérance. Ça, c'était dans sa catéchèse du 27 septembre 2017. Alors donc, quelquefois, on peut avoir une désillusion salutaire, voilà, quand on se casse la figure, parce que, bon, on pensait qu'avec la science médicale, tout irait bien, et puis ma maladie, la science, elle n'arrive pas forcément à faire quelque chose, ou alors je pensais que tout irait bien, puis il y a un revers professionnel, et voilà. Bon. Et alors... Du coup, ça peut être, comme on l'a déjà vu, ça peut être l'occasion quelquefois de se retourner vers Dieu et de réaliser. Alors, il y a deux citations de Jérémie que je trouve assez belles. Mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Autres. Ah, alors des citations de Georges Bernanos. L'espérance est une vertu héroïque. On croit qu'il est facile d'espérer, mais n'espère que ceux qui ont eu le courage de désespérer des illusions et des mensonges où ils trouvaient une sécurité qu'ils prennent faussement pour de l'espérance. L'espérance est un risque à courir, c'est même le risque des risques. L'espérance est la plus grande et la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme. Voilà. Le courage de désespérer des illusions et des mensonges où il trouvait une sécurité. Je trouve que ça, c'est bien dit. Alors, autre citation de Bernanos. On ne va jusqu'à l'espérance qu'à travers la vérité au prix de grands efforts. Pour rencontrer l'espérance, il faut être allé au-delà du désespoir. Quand on va jusqu'au bout de la nuit, on rencontre une autre aurore. Alors, donc, j'avance. Alors, ça, c'était les premières formes de présomption. On pense avec nos propres forces y arriver. Et puis après, il y a d'autres formes de présomption où, voilà, on s'est un peu cassé la figure. Mais au lieu de se tourner vers Dieu, bon, on se tourne. Alors, ça peut être une manière d'abord de se voiler un peu la face. On pourrait parler de la distraction. Alors, je vous ai parlé de l'alcool ou de la drogue, mais ça peut être aussi l'activisme, hein, la fuite en avant, et puis on ne s'arrête pas. Et parce que ce n'est pas toujours très confortable de s'arrêter pour regarder sa vie, etc. C'est Bernanos, cette fois-ci, qui disait « On ne comprend rien à la civilisation moderne si on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration contre toute espèce de vie intérieure. » Voilà, c'est une parole assez forte, mais en même temps, on est souvent dans la fuite en avant, on court, mais est-ce qu'on sait au juste après quoi on court? Alors ça, c'est une manière de distraction, une manière de Bernanos. On ne comprend rien à la civilisation moderne. On ne comprend rien à la civilisation moderne si on n'admet pas d'abord, si on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration contre toute espèce de vie intérieure. Contre toute espèce de vie intérieure. Alors, encore une fois, en disant ça, je ne veux pas dénigrer le monde moderne dans son ensemble, hein, mais, parce qu'il y a encore des belles choses, et voilà. Mais c'est quand même un danger qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est de courir toujours, et puis de manquer de temps pour vivre au niveau de notre intériorité. Et par une autre forme de présomption, donc on présume de la toute-puissance et de la miséricorde de Dieu. Là, on peut se rassurer à bon compte en disant « tout le monde ira au paradis ». C'est un peu facile, mais ce n'est pas ce que nous a dit Jésus. Hein. Dire ça, c'est un peu anesthésier les gens, et puis faites ce que vous voulez, de toute façon, on s'y retrouve, mais ben non, ce n'est pas ça. Ça voudrait dire que finalement, ce qu'on fait, bien ou mal, ça revient au même. Alors que non, pour Dieu, ce n'est pas la même chose de faire le bien ou le mal. Pour Dieu et pour les autres, et voilà. Selon que vous faites le bien ou le mal, ceux qui sont autour de vous, c'est pas la même chose. Ou alors on peut une autre manière aussi d'une forme de présomption, c'est de se dire oh, de toute façon les autres font ça. On a bien une petite voix qui nous dit eh ben non, tu ne devrais quand même pas. Jésus qui vous appelle par votre conscience et puis vous regardez à droite à gauche, vous voyez que les gens ils n'ont pas un mode de vie. Oh, finalement, les autres le font, pourquoi pas? Ben non. Dieu nous appelle à la conversion. Une autre manière encore, ça peut être de se mettre en danger spirituellement parlant. Hein, on se met dans des situations un peu difficiles et puis après on s'étonne de tomber, mais voilà, peut-être qu'on a pris. Ou alors, pire encore. Bon, j'ai pris rendez-vous avec mon confesseur, donc je peux faire des péchés avant. Alors là, c'est vraiment prendre le bon Dieu pour un imbécile. Hein, ou d'invoquer la parabole des ouvriers de la dernière heure, où il sera toujours temps de me convertir. Profitons-en, et puis à la dernière minute, je me convertis. Ben, ça ne marche pas exactement comme ça. C'est un calcul qui est... On voit bien... C'est une présomption qui est, voilà. Mais alors, donc, un autre point, donc, c'est concernant la voyance. Le pape François alors, pourquoi les gens vont... Je ne suis jamais allé voir une voyante, je dois vous avouer. Mais, alors, pourquoi les gens... Je pense que souvent, c'est plutôt quand ils sont dans une phase un peu d'incertitude où ils ont besoin d'être un peu rassurés, ou voilà. Alors plutôt que se tourner vers Dieu qui est invisible, c'est vrai qu'il ne nous répond pas de la même manière. La voyante, elle nous donnera bien une réponse. Mais en même temps, la voyance, c'est se rendre un peu passif par rapport à son destin. Parce que justement, avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Parce que mon avenir dépendra de ce que j'en fais aussi. Il n'est pas écrit d'avance, mon avenir. Il sera écrit à partir des actes que je poserai et de ma coopération à la grâce de Dieu. Voilà. Alors, pour le pape François, la voyance, une ineptie. Alors, il faut que je vous lise quand même quelque chose. Alors, qu'est-ce que je vais... Alors, oui. Nous sommes tentés de chercher des consolations, même éphémères, qui semblent remplir le vide de la solitude et adoucir la difficulté à croire. Adoucir la difficulté à croire. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de croire. Et nous pensons pouvoir les trouver dans la sécurité que peut donner l'argent, dans les alliances avec les puissants, dans la mondanité, dans les fausses idéologies. Ah oui. Alors, une fois à Buenos Aires, je devais aller d'une église à l'autre, 1 kilomètre plus ou moins. Je l'ai fait à pied. Et il y a un parc à mi-chemin, et dans le parc, il y avait des petites tables, mais beaucoup, beaucoup, où étaient assis les voyants. C'était rempli de monde qui faisait la queue. Il y avait plus de monde qui faisait la queue ici qu'au confessionnal. Voilà. Tu lui tendais la main, et il commençait, mais le discours était toujours le même. Il y a une femme dans ta vie, il y a un homme qui vient, mais tout ira bien. Et puis tu payais. Et cela te donne une sécurité? C'est la sécurité, permettez-moi ce mot, d'une stupidité. Allez voir un voyant ou une voyante qui lit les cartes, cela c'est une idole. Il y a une belle phrase aussi qui dit vers la fin. L'espérance en Dieu nous fait entrer, pour ainsi dire, dans le rayon d'action de son souvenir, de sa mémoire qui nous bénit et nous sauve. L'espérance en Dieu, voilà. Du coup, on se met dans la zone où il peut nous, on peut capter sa bénédiction, on pourrait dire. Voilà. Bon. Donc j'avance un petit peu, j'arrive à la deuxième partie, pour ne pas prolonger... On va voir les gros yeux de Marie-Pierre. Comme vous voyez, elle me terrorise. Oui, oui. Alors, le désespoir, c'est vrai que c'est... Il y a beaucoup de désespoir aujourd'hui, sans doute plus qu'à d'autres époques. On le voit dans le domaine de l'art, je ne suis pas un spécialiste d'art, et encore moins de l'art contemporain. Il y a une des portes de Saint-Pierre, je ne sais pas comment ils ont fait pour la mettre à Saint-Pierre, mais c'est des gens qui devaient déprimer un peu ce qu'est l'artiste, je ne sais pas. Mais c'est quand même assez dur, hein, tout ce qui est plutôt angoissant, etc. Il y a beaucoup de... Voilà. Mais ce désespoir, justement, il est lié, c'est justement, les deux péchés contre l'espérance, c'est d'un côté une présomption, vouloir s'en tirer tout seul, ou se tromper sur l'amour de Dieu et puis le prendre un peu à la légère, ou alors inversement, c'est le désespoir. Et la première chose dans le désespoir, c'est penser qu'il n'y a rien après la mort. Et de fait, c'est quand même pas la même chose quand il y a un proche, quelqu'un qu'on aime bien, qui meurt. Si on croit en l'éternité, si on croit qu'il y a le ciel ou qu'il n'y a pas le ciel, c'est quand même pas la même chose. Il y a des beaux textes de la parole de Dieu qui, je vous en prends quelques-uns, qui nous... parle justement du ciel. C'est vrai que c'est pas toujours facile sur la terre. Alors c'est pas pour dire simplement que bah, attendez tranquillement et dans le ciel ça sera mieux et puis aujourd'hui vous en bavez et puis après tout ira bien. Mais malgré tout, quand même il faut être assez réaliste. Le bon Dieu nous promet pas non plus qu'on n'aura pas d'épreuves sur la terre. Voilà dans l'Apocalypse au chapitre 7 versets 13 à 17. L'un des anciens prit la parole et me dit « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis « Mon Seigneur, toi tu le sais. » Il me dit « Cela vient de la grande épreuve. » Notre vie comme une... Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, ils le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Ni le soleil, ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. Ça, c'est dans l'Apocalypse au chapitre 7, et puis au chapitre 21. J'entendis une voix forte qui venait du trône, elle disait, voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Donc au chapitre 21, versets 3 à 5. Où Jésus, dans l'Évangile, autre verset qui peut nous aider, hein, c'est la parole de Dieu, il nous l'a dit aussi, il faut qu'on y croit. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. C'est au chapitre 16 de Saint Jean, versets 22 et 23. Donc il y a un ciel, c'est le Seigneur qui nous l'annonce. Alors vous vous rappelez aussi des paroles de Marie à Sainte Bernadette le 18 février. Alors il y a deux traductions, qu'est-ce qu'elle lui dit ? Oui, alors après il y a des... alors je pense qu'elle lui parlait en patois parce qu'on le traduit de deux manières. Je ne vous promets pas de vous rendre heureux en ce monde, mais dans l'autre. Alors, et il y en a qui traduisent autrement, je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais de l'autre. Alors, la nuance, c'est que déjà, on peut être heureux. De fait, les témoins disent, surtout les premières apparitions après, où Bernadette était très, très heureuse, après, quand Marie lui a demandé de faire pénitence et tout ça, et du coup, quand elle a cherché la source, etc., enfin, vous connaissez ça mieux que moi, c'était plus difficile, mais comme dans la vie de Jésus, on a les mystères joyeux, on a les mystères douloureux, hein, dans notre vie, voilà. Mais, voilà. Mais, dès à présent, on peut goûter quelque chose de la joie du ciel. Mais je pense qu'on en a déjà parlé, je crois, la dernière fois ou la fois d'avant, mais déjà dans certaines situations, on goûte quelque chose aussi de ce que peut être le bonheur du ciel, même si c'est que partiel ce qu'on peut éprouver ici-bas. Donc, première source de désespoir, penser qu'il n'y a rien après la mort et qu'on tombe dans un trou et que ça se termine là. Deuxième forme de désespoir, c'est penser qu'on est tout seul. C'est pas la même chose de savoir qu'il y a un père qui pense à nous ou de penser que voilà, il faut se débrouiller tout seul. Personne ne pense à nous. Passage d'évangile que j'aime bien, dans Saint Matthieu, chapitre 6, versets 31 à 34. Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas qu'allons-nous manger ou bien qu'allons-nous boire ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de rester les bras croisés, hein, c'est évident, mais de croire justement que voilà, Dieu il ne nous oublie pas. C'est Saint Paul qui dit, mais celui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré à la mort pour nous tous, que ne nous donnera-t-il point après nous l'avoir donné? Ce fait de savoir aussi que Dieu voilà, pense à nous, qu'il n'est pas indifférent, qu'il est... Voilà, qu'on peut avoir de l'aide auprès de lui, ben ça nous aide à assumer nos faiblesses et nos limites. Si on n'a pas quelqu'un qui nous aime à côté de nous, c'est compliqué d'accepter nos faiblesses. Nos faiblesses, c'est quand même plus facile quand il y a quelqu'un qui nous aime comme on est. On n'a pas besoin de démontrer qu'on est fort et... Savoir que voilà, que nous pouvons nous tourner vers Dieu, ben c'est pas seulement dans les faiblesses, mais aussi dans les épreuves. Alors, je ne sais plus quel psaume vous avez médité ce matin. 73, c'est ça? Enfin, peu importe. D'accord. Alors là, le psaume 106. 106 ou 107. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ils le diront, les rachetés du Seigneur, qu'il racheta de la main de l'oppresseur. Alors, le refrain est plus gai quand même que l'autre. Hein, l'autre, c'est l'homme comblé qui n'est pas clairvoyant ressemble aux batailles qu'on abat. Ça, c'est le refrain. Ça, c'est un autre refrain. Et ils souffraient la faim, ils sentaient leur âme défaillir. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur et lui les a tirés de la détresse. C'est ça. Il y a deux refrains dans ce psaume. Il y a celui-là. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur et lui les a tirés de leur détresse. Puis il y a un autre refrain. Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Voilà. Et après, voilà, il continue. Certains gisaient dans les ténèbres mortelles, captifs de la misère et des fers. Ils avaient bravé les ordres de Dieu, hein, donc c'est un peu de leur faute, et méprisé les desseins du Très-Haut. Soumis par lui à des travaux accablants, ils succombaient, nul ne les aidait. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur et lui les a tirés de leur détresse. Voilà. Et ça revient sans cesse, et puis à chaque fois, égarés par leurs péchés, ils ployaient sous le poids de leurs fautes, ils avaient toute nourriture en dégoût, ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur et lui les a tirés de la détresse. C'est le refrain qui vient. Encore un peu plus loin. Ils parlent et provoquent la tempête d'un vent qui soulève les vagues, portées jusqu'au ciel, retombant aux abîmes. Ils étaient malades à rendre l'âme. Ils tournoyaient, titubaient comme des ivrognes. Leur sagesse était engloutie. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur et lui les a tirés de la détresse. De temps en temps, on peut prendre des psaumes qui nous aident comme ça. Pour... Voilà. Et puis aussi, le fait de savoir que Dieu est là, ça nous aide à consentir certains efforts, parce que voilà, il y a des choses qui nous coûtent dans la vie, peut-être pas vous. Si ? Vous avez des gens parfaits autour de vous, donc... Mais voilà. Moi aussi, d'ailleurs. je l'avais peut-être déjà dit une autre fois, sur le « N'ayez pas peur » de Jean-Paul II. Tout le monde connaît ce « N'ayez pas peur » qu'il a proclamé un peu après son élection. Mais après, quelques années après, dans un livre, il disait que ce « N'ayez pas peur », on pouvait l'entendre de plusieurs manières, et une des manières de l'entendre, c'est n'ayez pas peur des exigences morales, parce que Dieu donne ce qu'il ordonne. Il le dit pas comme ça, mais c'est un dicton en quelque sorte. Quand Dieu nous demande quelque chose, il nous donne aussi la grâce pour le vivre, même si ça nous paraît un peu surhumain. Mais justement, c'est peut-être surhumain, mais la grâce est justement là pour ça. Et voilà, savoir que Dieu est là, qu'on a de l'aide, on peut rentrer dans le combat spirituel. Mais si on pense que personne ne va nous venir en aide, c'est pas la peine. Alors, ça, c'était une deuxième manière de désespérer, c'est de pas penser que Dieu est près de nous et qu'il nous écoute, et qu'il écoute notre prière. Troisième et dernière manière, c'est penser qu'on ne pourra pas être pardonné. C'est le remords. Alors, le mauvais exemple, mais de désespoir, c'est celui de Judas. Donc, il livre Jésus, puis après, on lit, c'est au chapitre 27 de Saint Matthieu, vous pouvez lire versets 3 à 5. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit : j'ai péché en livrant à la mort un innocent. Il nous fait presque pitié à ce moment-là, Judas. Il répliqua : que nous importe, ça te regarde. Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. On voit que le désespoir. Il n'a pas cru assez à la miséricorde de Dieu. Bon, Pierre, lui, il avait renié, mais il a cru à la miséricorde de Dieu. Ça rejoint aussi la réaction de Caïn une fois que son péché est découvert. Alors, ça dépend des traductions, mais « Mon crime est trop grand pour que je puisse en obtenir le pardon. » Et pourtant, dans la parole de Dieu, c'est assez clair que Dieu veut nous sauver. La parole de Dieu, bon, ce qui est premier, c'est quand même la parole de Dieu, mais ce qui me vient sous les yeux, c'est une parole de la petite Thérèse. Si j'avais commis tous les crimes possibles, j'aurais toujours la même confiance. Alors, je vous cite Ézéchiel, au chapitre 18, verset 23. « Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur Dieu, et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive ?» Ou un peu plus loin, chapitre 33. « Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais bien plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. » Ou alors, Jésus, dans l'évangile de Saint Jean, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Voilà. Donc la volonté de Dieu, c'est clair. Il veut nous sauver, il ne veut pas nous enfoncer, il n'est pas à se réjouir que quelqu'un aille en enfer, ça, c'est pas du tout le bon Dieu. Et sitôt qu'on veut se tourner vers lui, il nous pardonne. J'ai encore le temps de vous dire un petit mot sur le péché contre l'Esprit Saint. Alors, qu'est-ce que c'est que le péché qui ne peut pas être remis, alors ? Le péché. Alors, je vous lis, c'est Saint Matthieu, mais c'est un peu la même chose en Saint Marc et Saint Luc. Tout péché et blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas remis. Et quiconque aura dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis. Mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera remis ni en ce monde ni dans l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce péché contre l'Esprit Saint ? Alors, si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez lire une encyclique du pape de Saint Jean-Paul II, Dominum et Vivificantem. Les seigneurs y donnent la vie. C'est une encyclique sur l'Esprit Saint. Et alors, pourquoi donc ce blasphème contre l'Esprit est impardonnable ? C'est parce que l'homme refuse la manifestation du péché. Autrement dit, l'homme revendique le droit de persévérer dans le mal. Il refuse de se convertir. Et ça rejoint aussi ce qu'on retrouve dans la parole de Dieu sur l'endurcissement du cœur. L'endurcissement du cœur. Où vraiment on persévère et puis on ne veut pas reconnaître que c'est mal. Mais la première chose, pour être pardonné, il faut reconnaître que ce qu'on a fait est mal. Si on ne reconnaît pas que c'est mal, Dieu ne peut pas nous pardonner. C'est ça, hein, la question. Dieu peut tout nous pardonner, mais il faut quand même qu'on reconnaisse que c'est mal. Si on dit non, c'était bien, je suis fier de l'avoir fait, ben continue. C'est ça. Donc le péché contre l'Esprit Saint, c'est ça, c'est ce fait de justifier le mal à tout prix contre l'Esprit qui vient nous éclairer. Voilà. Bon, je ne vais pas vous laisser quand même terminer sur une note sur le désespoir. Je tiens à vous revoir la fois prochaine. La fois prochaine, ce sera les aides pour vivre dans l'espérance. Alors, pour ne pas vous laisser désespérer, justement, on peut demander à l'Esprit Saint de nous renouveler dans l'espérance. Alors, voilà ce que Benoît XVI disait aux jeunes en 2009. Alors, je vous le dis à vous, hein, ça s'adapte tout à fait. À vous, chers jeunes, qui êtes en recherche d'une espérance ferme, j'adresse les mêmes paroles que saint Paul adressait aux chrétiens persécutés de la Rome d'alors. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude, à vous qui croyez, la joie et la paix, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Donc c'est l'Esprit Saint qui vient nous fortifier cette espérance en nous.